Bonne nuit sur France Inter.
Il est 5h, le flash Victor Costa-Mounier. En réponse à des commentaires provocateurs et incendiaires de l'ancien président russe Dmitri Medvedev, ce sont ces mots, Donald Trump veut mettre la pression sur la Russie. Hier soir, le président américain a ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires dans des zones appropriées. Fin de citation. On ne sait pas pour l'heure si ce sont des sous-marins à propulsion nucléaire ou s'ils ont embarqué des armes atomiques. Les bourses mondiales ont reculé hier aux États-Unis, mais aussi en Europe. Le CAC 40 a plongé à presque moins 3%. Conséquence de la signature des décrets d'application des droits de douane par Donald Trump la nuit dernière. Ils doivent s'appliquer le 7 août prochain. La France a largué hier 40 tonnes d'aide humanitaire sur la bande de Gaza avec l'appui de la Jordanie, des Émirats Arabes Unis et de l'Allemagne. Des largages considérés comme insuffisants par les ONG Médecins du Monde et Amnesty International, mais aussi par Emmanuel Macron. Sur X, le président français appelle Israël à ouvrir un plein accès humanitaire pour répondre au risque de famine, notamment via les acheminements par voie terrestre. Prière géante à Rome, 1 million de jeunes catholiques du monde entier sont attendus aujourd'hui en Italie pour une veillée avec le pape Léon XIV. Le souverain pontife, élu par ses pairs en avril, doit arriver en hélicoptère avant de s'offrir un bain de foule en papa mobile. Il célébrera une grande messe dimanche matin. Soupçonné d'avoir tué 2 collègues par balle à Bressé-sur-Tille, près de Dijon, l'auteur présumé a été retrouvé mort hier. Il s'est vraisemblablement suicidé. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les corps sans vie de 2 salariés du BTP ont été retrouvés sur le parking de leur entreprise. Une vaste opération de recherche avait alors été lancée pour retrouver l'auteur présumé du double homicide qui avait pris la fuite armée. Le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, sous la menace d'un procès pour viol requis par le parquet de Nanterre. L'international marocain est accusé d'avoir violé une femme à son domicile en 2023. C'est maintenant au juge d'instruction de confirmer ou non le réquisitoire du parquet. Sur le Tour de France Femmes, aujourd'hui, 8e étape au départ de Chambéry avec une arrivée à presque 2000 mètres au col de la Madeleine. Hier, une autre Française, Maëva Skiban, a aligné une 2e victoire consécutive. Au classement général, la Française Pauline Ferrand-Prévot est toujours 2e à 26 secondes derrière la maillot jaune Kim Lecourt. Sur la route des vacances, cette fois, week-end de chassés-croisés. La circulation était déjà dense cette nuit sur les routes d'Île-de-France et ce sera noir sur tout le territoire aujourd'hui dans le sens des départs, selon Bison Futé. Circulation difficile notamment sur les autoroutes en direction de l'Atlantique et de la Méditerranée.
France Inter, à vos côtés toute la nuit.
Oui, bonjour Frédéric, je souhaiterais te remercier d'avoir été Blockbuster. Une bibliothèque pleine à craquer, un compte en banque qui a besoin de respirer, une femme qui a du mal à comprendre ce que j'explique qu'il faudra attendre le mois prochain pour un restaurant, alors que le même jour je reçois un colis avec plus de 40 tomes de manga. Bref, pour toutes ces raisons, merci Frédéric, merci. Un regret toutefois, il manque un épisode sur la Compagnie Noire. Au cas où, à bon entendeur.
Bonjour Frédéric, c'est Marie, je suis une récente auditrice et ça va faire 2 ans que je t'écoute l'été en partant travailler. Et je me disais, au vu des messages que tu reçois, si ton émission ne serait pas elle-même devenue légitime à un épisode de Blockbuster. Voilà, je vous laisse méditer. Bonne continuation à toi et ton équipe. Salut à tous.
J'ai une fille de 12 ans. C'est mon petit soleil, mon microclimat à elle toute seule. Une boussole qui indique toujours la bonne humeur. Et je dois avouer que c'est particulier de voir grandir une petite fille pleine de vie, de joie, d'envie, dans une France où chaque matin, aux infos, on égrène des affaires d'harcèlement de rue, d'harcèlement au travail. Et vas-y que je te passe d'un procès Mazan à une affaire Abbé Pierre sans se mouiller la nuque. Dans l'actualité, attention, un puff dédié peut en cacher un autre. Et on se surprend en tant que père à se demander ce qui cloche chez les mecs. Alors, genre, je vous entends d'ici « Oh, not all men !» Je suis désolé, il en suffit d'un. Donc dans le doute, all men, et puis on fera dans le détail ensuite. Alors évidemment, on fait son introspection. On se demande si on fait pas aussi partie du problème. C'est vrai, c'est quoi, moi, au fond, mon rapport aux femmes? On vit une sorte de dissociation où on se met à écouter des podcasts féministes sur les erreurs commises par les hommes en imaginant faire partie d'une autre espèce. Et c'est dur d'élever une enfant en lui disant « Méfie-toi des hommes, ma chérie. Ils peuvent être menteurs, toxiques, et même au sein d'un couple, ils peuvent ne pas te respecter. » Ouais, mais toi, papa, t'es un homme. Donc t'es comme ça. Et là, tu retombes dans une variante du Not All Men, le non, pas papa. Heureusement, la pop culture est venue au secours des darons qui veulent éviter de dire trop de conneries avec Buffy contre les vampires. La solution pour apprendre à une pré-ado à se méfier des hommes. Parce que Buffy, elle a des ex-vampires qui deviennent méchants après avoir couché avec elle. Elle se bat contre des gars gentils qui se transforment en loups-garous les nuits de pleine lune. Et contre des incels misogynes qui font du mal au monde parce qu'ils n'ont pas de copines. Ma fille, elle adore, et moi aussi. Buffy, c'est un podcast féministe, mais avec des vampires. Alors vous allez me dire que Joss Whedon, son créateur, était un gars toxique qui harcelait ses comédiennes. Je vous répondrai, je vous l'ai déjà dit, All Men. Le reste, on verra plus tard.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
Ça, c'est moi, Lou. Elle, c'est ma maman. Elle est un peu à l'ouest. Et elle aime pas trop les chats.
Moi, ouais, je m'en fous complètement.
Enfin... On se marre bien toutes les deux. Sinon, il y a lui aussi, le nouveau voisin. On l'aime bien. Surtout maman.
Toi ?
Ouais.
Et puis, il y a les copines. Les copains. Et... Tristan.
Hey.
Hey.
Gerbant.
Depuis 20 ans maintenant, Julien Neal raconte avec un succès phénoménal la vie de Lou, une jeune fille blonde, vive, curieuse et drôle. Là où les personnages de BD franco-belges sont souvent condamnés à ne jamais évoluer, Lou, elle grandit, elle vieillit, et son monde avec. Lou parvient à faire ce que beaucoup de générations peinent quelquefois à réussir, vivre avec son temps. Et pour revenir sur la jeunesse de ce si touchant personnage, je suis en compagnie de son auteur, Julien Neal. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes tout simplement le papa de Lou.
C'est ça, l'auteur, oui.
Des fois, le ciel est complètement blanc. Et d'ici, j'aime bien. J'ai l'impression d'être sur le pont d'une caravelle. Le poste de vigie idéal pour espionner ce garçon dans l'immeuble d'en face. Mina, ça la gonfle, je le sais. Elle appelle ça du voyeurisme.
C'est pas normal, je te jure, hein. Ton délire avec ce garçon. Autant j'ai rien dit les premières années, mais là...
J'ai un cahier spécial pour les photos quand il arrose sa petite plante verte. Et j'ai un autre cahier spécial moins épais pour quand il oublie d'arroser sa petite plante verte. J'ai un cahier spécial de quand il passe devant la pharmacie le mardi soir en allant à son cours de guitare. Il y a des miroirs et sous cet angle, c'est comme s'il y avait trois Tristan pendant une seconde.
C'était un extrait du film Lou, sorti en 2014, réalisé par vous-même, Julien Neal. Dans ce film, Lou est interprété par Lola Lasseron et Mina par Eden Hawke. Julien Neal, avant de parler de votre œuvre, j'ai envie de savoir quel genre d'enfant étiez-vous ?
Ah bah, je pense que comme pas mal d'auteurs de bande dessinée, j'étais un petit garçon un peu rêveur et introverti, qui était très réfugié dans les livres et dans la fiction. J'étais pas très sportif, et puis effectivement, je passais déjà mon temps à dessiner, à bricoler des films en Super 8, en stop motion, à faire de la musique de façon empirique avec des petits synthétiseurs. Enfin voilà, toutes ces choses qui étaient mes jeux et qui sont devenus mon métier en fait.
Et quand vous parlez de lecture, c'était quel type, soit des romans, soit des bandes dessinées déjà ?
Oui, bien sûr, des bandes dessinées, parce que j'avais un papa qui était un grand lecteur, donc j'avais l'intégrale de tous les classiques franco-belges, les Tintins, les Astérix, etc. Et puis j'avais une maman institutrice qui très vite m'a donné le goût de lire, et donc j'étais assez boulimique, ouais, effectivement, de romans et de bandes dessinées.
Et justement, un enfant rêveur avec une maman institutrice, j'ai eu un ami qui était dans le même schéma. Il me disait que c'était des fois un petit peu compliqué.
Non, en fait, bizarrement, ça interférait pas trop. Non, j'ai eu cette chance de grandir parce qu'elle était institutrice, mais elle était aussi chanteuse soprano et très artiste. Et j'ai eu la chance de grandir effectivement dans un milieu où c'était très bien vu, effectivement, de se consacrer à sa passion. Et puis effectivement, ils voyaient mon père ou ma mère le travail que j'effectuais à côté des cours, où effectivement c'était pas brillant parce que je suis un cancre, hein, j'ai arrêté en seconde et je suis autodidacte, mais Mais par contre, effectivement, j'ai toujours énormément travaillé, en fait. Pas à l'école.
Oui, oui, ce qui est le cas de beaucoup de dessinateurs. Et à quel moment vous vous êtes dit, tiens, dessinateur, c'est vraiment le métier que je veux faire ?
En fait, bizarrement, mon grand-père et mon père étaient dessinateurs publicitaires. Donc il y avait un truc où c'était une sorte de continuité. J'étais vraiment passionné par ça à l'adolescence, etc. Je faisais de la peinture. J'ai eu une phase où je voulais être peintre expressionniste allemand. J'avais juste 100 ans de retard sur l'histoire. J'étais pas allemand ni expressionniste. Mais après, en fait, très vite, c'était le truc quand j'ai arrêté le lycée, ça a été bêtement très vite de rentrer en apprentissage et de commencer à travailler de gagner ma vie avec mon dessin. Et donc j'ai été graphiste pendant plusieurs années en pensant que j'allais rester graphiste, hein, c'était mon plan de carrière plus ou moins en fait, et que je continuais en même temps que ce job à faire des tonnes de projets, des fanzines, des petits films amateurs, des choses comme ça, et je pensais que ça allait durer toute ma vie comme ça, que ça serait mes activités parallèles en fait, et ça me satisfaisait tout à fait. Et puis en fait, j'ai eu cette chance d'avoir rencontré un éditeur et d'avoir croisé le chemin d'un éditeur qui m'a proposé de travailler dans le journal Tcho, qui s'appelait Jean-Claude Camano. Et donc très vite de commencer à faire un album de bande dessinée, et c'est quelque chose qui m'a un peu pris de court. Je pensais pas être au point, etc. Mais je me suis lancé là-dedans, et en fait j'ai eu cette chance où le premier album de Lou a très vite bien marché. Donc ça fait 20 ans que ça dure maintenant.
Et avec ce premier album, il y a forcément une pression inhérente au métier de dessinateur, une date, une deadline pour remettre les planches. Il faut composer entre savoir dessiner une belle illustration et savoir raconter une histoire, composer une ville, un appartement. Comment vous avez résolu tous les problèmes inhérents à une première bande dessinée qu'on doit remettre comme ça ? Est-ce que vous avez eu du soutien ?
Je pense que ce qui m'a servi beaucoup, c'est effectivement le fait d'avoir été graphiste avant. En tant que graphiste, tu travailles avec des cadres, des limites, des deadlines et des choses comme ça, en fait. Ce qui fait que, même si je suis un sacré bordélique, en fait, je suis très très carré dans ma tête, et je pense qu'effectivement c'est mon talent, c'est pas tellement le dessin ni quoi que ce soit, c'est vraiment le cadrage et le fait de mettre tes choses dans des cases. Et donc un projet, je le considère comme une unité de temps, et après on le divise, etc. J'ai un côté très mathématicien et très structuré dans la façon dont je gère mon travail, alors même si des fois il y a eu des écarts et des délais qui n'ont pas été tenus, mais la plupart du temps quand même j'essaye de m'y tenir. Et effectivement, c'est tout l'équilibre, et c'est ce qu'il y a de plus dur dans ce métier, finalement. Il y a une partie, il y a l'écriture, il y a le dessin, mais le fait de cadrer son travail et d'arriver à aboutir à un album, aboutir à un projet, c'est finalement la partie la plus compliquée des choses.
Ce premier album, il vous a pris combien de temps ?
J'étais très rapide sur les premiers albums. Alors c'était chouette parce que alors que j'avais été pendant très longtemps, j'osais pas tellement faire de bande dessinée parce que j'étais écrasé par des maîtres du classicisme, disons du Franquin, du Hergé, etc. Et puis c'est quand j'ai commencé à faire de la BD, j'étais vachement sous l'influence de Lewis Trondheim et Johann Sfar, en fait, de la nouvelle bande dessinée, de cette école de l'association qui lâchait le dessin et qu'elle est vers une forme de narration beaucoup plus libre et spontanée. Et en fait, c'est finalement le fait d'être sous leur influence et l'influence de cette énergie qui fait que mes premiers albums, je me posais pas trop de questions, et j'allais très vite dans le dessin, dans l'exécution, etc. Et donc, effectivement, le premier album, en tout cumulé, j'ai dû mettre 10 mois, un truc comme ça. C'était et après, plus ça allait, plus j'ai mis du temps. Et là, j'essaie de revenir à des délais courts.
Et c'est marrant parce que vous citez beaucoup de la BD franco-belge, alors que quand je suis tombé sur les premiers volumes de Lou, il y a quelque chose. Alors, ça ne ressemble pas à du manga, mais il y a un arc. de l'ellipse ou de la du résumé de personnage à quelques traits, la maman de loup avec sa frange, les lunettes qui sont ses yeux en fait, qu'on ne verra jamais avant un certain temps, et même pour Lou dans cette coupe de cheveux qui pourrait se résumer à trois blocs comme ça, est-ce que vous étiez influencé aussi par cette animation japonaise qui était quand même arrivée depuis de nombreuses années en France, ou c'est quelque chose qui s'est
tout à fait spontané? C'est-à-dire que moi le manga j'ai dû commencer à en lire quand j'avais 15 ans avec les premières publications d'ailleurs par Glénat, les Akira, les Dragon Ball, le Ranma, etc. Et donc, évidemment, et puis l'anime, Miyazaki, tout ça, donc ça fait partie de ma culture, comme maintenant la majorité des graphistes de mon âge, en fait, ont été forcément imprégnés par ça. Comme le comics aussi fait aussi beaucoup de partie de ma culture. Moi, j'aime la bande dessinée, je pense que je connais assez bien la bande dessinée de manière générale, que ça soit les indépendants, les Américains, les Belges, j'essaye d'être le plus hétéroclite possible et d'aller grappiller des choses à gauche et à droite. Et donc, effectivement, il y avait, il y a forcément du manga dans l'influence, forcément du Rumiko Takahashi, du Tezuka, des choses comme ça. C'est des choses qui sont tout aussi prégnantes que Hergé ou que Chris Ware. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est la somme de toutes ces influences condensées en disant, bah tiens, ça me plaît chez telle personne, ça me plaît chez telle personne, et j'essaye de faire ma sauce. Et voilà, ça donne ça.
Et j'adore poser une question quand je suis en face d'un dessinateur, c'est qu'est-ce que vous adorez dessiner? Parce que on a tous un truc qu'on adore dessiner et un truc qu'on déteste faire. Et quel est le vôtre?
Je crois que j'aime. Ah, c'est dur, hein, parce que justement j'ai essayé de développer tout un style de dessin global. Et par exemple, j'aime largement autant dessiner les décors que les personnages. Là où je vois beaucoup de jeunes qui adorent dessiner les personnages et les décors ou les bagnoles, ça les ennuie, etc. Moi, j'ai essayé de faire un style qui est unifié et de retrouver le même plaisir dans tout. Alors, effectivement, quand ça va trop loin dans le réalisme ou dans des capacités techniques et que je souffre dans le dessin, j'aime pas ça. Mais en fait, de trouver mon petit vocabulaire et ma propre ligne et d'arriver à faire un espèce de truc entièrement tactile et cohérent dans tout, j'essaye de m'attacher à faire en sorte que y ait du plaisir dans le moindre objet, en fait.
Donc tout recréer mais dans sa ligne,
c'est ça.
On est ensemble pour parler de la genèse de Lou, ce personnage de bande dessinée bien connu des jeunes lecteurs et lectrices. Mais pour le moment, on va écouter Commencer de Crystal Zilote, évidemment, issu de la bande originale du dernier tome de Lou Sonata, avec Marquis du Néant.
S'agitent les événements, qu'il s'agit de commencement, que tout nous semble insurmontable. Il n'est pas question de reculer, pas question de dissimuler cette peur indéfinissable. Mais tant qu'il est chaud, battre le fer, pour être coutumier du fer, pour être coutumier du fer. Et si ce n'est pas une mince affaire, s'il est parmi nos adversaires des pensées des plus redoutables, qui nous hantent et nous font oublier qu'au fond de nous le cœur y est, il faut l'avouer, c'est regrettable. Car le temps passé ne revient plus, à commencer par le début, à commencer par le début. C'est si facile quand les idées défilent, quand le temps d'un instant tout vient tout naturellement. Le difficile dans nos vies volatiles, c'est de prendre le temps de commencer sans quoi ni comment. C'est
si facile quand les idées défilent, quand le temps d'un instant tout vient tout naturellement. Le difficile dans nos vies volatiles, c'est de prendre le temps de commencer souvent. Mais nous ignorons de quoi sont faits les lendemains insatisfaits et leurs aveux insupportables. De ce sentiment que l'on éprouve, qui nous rassure et qui nous prouve que nous n'en sommes pas incapables. Mettons de côté dès à présent tous les après, tous les avant, tous les après, tous les avant. Il n'y a pas de plume à y laisser, pas de costume à endosser, il faut jouer carte sur table. Il n'y a pas d'enjeu, bien au contraire, personne ne jette la pierre à celui qui est véritable. Laissons-nous aller, partons devant, en tous les lieux, par tous les vents, en tous les lieux, par tous les vents. C'est si facile quand les idées défilent, quand le temps d'un instant tout vient tout naturellement. Le difficile dans nos vies volatiles, c'est de prendre le temps de commencer sans quoi ni comment. C'est si facile quand les idées défilent, quand le temps d'un instant tout vient tout naturellement. Nos vies volatiles, c'est de prendre le temps de commencer souvent. C'est si facile quand les idées défilent, quand le temps d'un instant tout vient tout naturellement. Le difficile dans nos vies volatiles, c'est de prendre le temps de commencer sans quoi ni comment. C'est si facile.
France Inter. Blockbuster. Frédéric Sigrist.
C'est le saut qui c'est comme d'habitude.
Bonjour mamie.
Oh, en pompe.
Ça va, t'as fait bon voyage?
Épouvantable. Chaque fois que je viens dans cette fichue ville, les gens sont de plus en plus sales et mal polis. Elle grandit pas, ce gosse. À manger des saloperies, là? Mais qu'est-ce que c'est que ces frusques?
Ça va bien, et toi?
Bon, est-ce que ça t'intéresse?
C'était encore un extrait de Lou, le film. La mère et la grand-mère de Lou sont interprétées par Ludivine Sagnier et Nathalie Baye avec Lola Lasseron dans le rôle de Lou. Juste avant, on a entendu Cristal Zilote, Marquis du Néant, pour le titre commencé.
Alias Tom Wallman.
Voilà, donc comment s'est créé ce projet si particulier qui a accompagné la sortie de Lou Sonata 2?
Alors c'est assez rigolo, ça faisait quelques temps à Aix, la ville où j'habite, Aix-en-Provence, que je fréquentais une bande de joyeux musiciens qui jouent du jazz manouche, le Gala Swing Quartet, un groupe local. Et on était devenus copains, particulièrement avec Alexandre, un des musiciens. Et puis l'idée, c'était pour la sortie de Lou Sonata 1, de faire un jeu de mots stupide de Luffy Hip Hop et de faire un morceau de tous les deux dans mon bureau de hip hop pour accompagner la promotion de ça. Et puis Alexandre, je commence à lui dire qu'est-ce qu'on peut faire. Il me dit peut-être ça serait bien de venir avec Tom à la guitare et Ezekiel à la clarinette, Max à la batterie, et peut-être ça serait bien finalement de faire plus d'un morceau. Et finalement on en est venu à monter une association et à faire une grande résidence et à se dire on va faire carrément un album. Et en fait, comme j'étais parti sur ce concept de Lou Sonata qui est la deuxième saison en quelque sorte de Lou, avec ce mot musical sonata, et
où elle est grande, où elle s'est installée, voilà, dans son appartement.
L'idée en fait c'est vite devenu le fait de dire je vais faire trois albums sur cette saison qui seront accompagnés de trois disques. Et donc là de travailler, là on en a déjà fait deux, on a enregistré le troisième aussi, Et c'est de collaborer, de faire ces résidences avec plein de musiciens, de collaborateurs, et de jouer un peu avec mon univers, de partager un petit peu mes jouets en fait avec d'autres artistes. Et donc c'est un énorme plaisir et c'est extrêmement excitant et galvanisant en fait de me retrouver avec tous ces jeunes gens talentueux.
Et il faut que je vous pose la question que je n'ai toujours pas posée, mais qui est l'éléphant dans la pièce. Comment est né Lou?
Alors Lou est né il y a bien longtemps, il y a 20 ans maintenant. Lou est né dans les pages du magazine Tcho, qui était un magazine lancé à l'initiative de Zep, l'auteur de Titeuf, qui était un magazine jeunesse qui publiait du gag en une planche à ce moment-là. Magazine pour lequel j'ai collaboré pendant un an ou deux. Je faisais des jeux, des rubriques, des choses comme ça, parce que on faisait nos armes là-dedans à cette époque-là dans le magazine. Et puis Jean-Claude Camano me demande un jour de créer une série. Simplement, moi j'avais une fille, Maya, qui était née il y a pas très longtemps. Je me rendais compte qu'effectivement les filles étaient peu ou mal représenté dans la bande dessinée jeunesse, donc c'était assez évident pour moi simplement de créer un personnage féminin positif. Ensuite, effectivement, la bande dessinée que je lisais et que je consommais était assez souvent chargée d'intimité, voire d'autobiographie. Et donc, ça a été simplement le mélange de ces deux choses qui ont fait que le petit univers de Lou, un truc dans lequel les enfants se sentent en sécurité, un truc un peu confortable... Et un truc effectivement extrêmement inspiré de ce que j'avais vécu moi dans ma jeunesse et ce que je continue à vivre, parce qu'il y a vraiment une écriture méta où tout est mélangé dans les pages de Lou, et c'est ça qui a donné en fait la recette, si tant est qu'il y en ait une.
Et vous vous êtes demandé si vous auriez pu raconter la même histoire avec un fils qui vit seul avec sa mère, ou le fait que ça soit une fille avec sa mère qui tient le foyer toute seule, ça vous permet d'accéder à certains thèmes, certaines émotions.
Alors, ce qui est marrant, c'est que paradoxalement, le genre, c'est quelque chose justement que j'ai essayé d'éviter à tout prix, de marquer trop catégoriquement les choses. C'est-à-dire que quand moi je raconte mon adolescence, je me mets en scène dans le personnage de Lou. Quand je me mets moi adulte et père, je suis souvent la mère de Lou. Enfin, c'est un mélange de choses. Et finalement. Une des choses que j'ai essayé de faire, c'est quand j'écris un personnage, je me soucie pas de son genre. C'est un personnage comme ça. En fait, il se trouve que, par contre, à chaque fois que j'écris des personnages d'hommes, ils sont assez souvent lâches et fuyards. Donc, il y a tout un travail de psychanalyse que je dois faire aussi là-dessus, quoi. Mais voilà. Puis dans le troisième tome de Lou Sonata, on va vraiment rentrer un peu plus dans le vif du sujet.
Oui, l'éléphant dans la pièce, voilà. De toute la saga de Lou.
C'est ça.
Et Lou vivait initialement seul avec sa mère et grandir dans un foyer monoparental. Est-ce que ça permet d'ouvrir une autre dimension dans les relations habituelles parents-enfants? J'ai moi-même grandi dans un foyer monoparental et c'est vrai que cette verticalité tu dis je fais, elle existe plus difficilement dans les foyers monoparentels où c'est plutôt faut que tu m'aides, faut qu'on se tienne les coudes. Et est-ce que vous aviez conscience avec cette bande dessinée de mettre des mots sur quelque chose qui était qui est pas la cellule familiale traditionnelle qu'on présente en bande dessinée jeunesse?
Complètement, parce que moi c'est la cellule que j'ai connue aussi, hein. Et en fait bêtement je crois que j'aurais pas pu écrire quelque chose d'aussi juste et d'aussi intime si ça avait été autre chose, si ça avait été une famille plus classique. Maintenant je pourrais parce que j'en ai une et donc je sais comment ça fonctionne une famille atomique, mais quand j'étais petit j'en avais aucune idée. C'est pour ça que quand je voyais je le cite toujours, mais quand je lisais Boule et Bill et tout ça, pour moi j'avais l'impression que c'était chez les Martiens avec le père qui rentrait avec l'attaché caisse, la mère qui faisait la vaisselle, le cocker qui apportait les pantoufles. J'avais pas tout ça, moi je vivais dans une autre dimension, et ce que me proposait la bande dessinée c'était quasiment que ce modèle familial. Et je me souviens vraiment d'une petite page dans un Astrapi il y a très longtemps où ils mettaient en scène effectivement une famille monoparentale, et je me souviens d'avoir vu ça dans le média qui me plaisait. En fait ça m'avait fait un bien fou, et donc c'était simplement assez logique, et toujours dans cette histoire de confort, etc., de me dire, mais oui, en fait, cette situation, et j'ai jamais voulu en faire non plus un drame ou un sujet, en fait, finalement, la famille monoparentale, même si on l'effleure, etc., mais pour moi, elles vivent, elles ont grandi comme ça, elles se sont construites comme ça, et justement, c'est ce que je vais aborder dans le troisième tome, c'est voilà le fait que Lou ait grandi sans père et que d'un coup il se présente à elle alors qu'elle n'avait jamais rien demandé. C'est plutôt lui qui enquête de quelque chose que oui, elle.
Voilà,
c'est ça.
Et on parle de Lou depuis le début, mais en relisant tous les tomes pour préparer cette émission, il y a quelque chose qui frappe directement, c'est que il y a une autre grande héroïne, c'est la mère de Lou, qui occupe quand même une grande part aussi de tout ça, et qui est très éloignée des codes de la maman qu'on trouve en BD. Alors évidemment, maintenant que vous avez expliqué la genèse, on comprend pourquoi, mais elle est gameuse, elle est un peu à la ramasse des fois, sentimentalement aussi. Mais il y avait déjà quelque chose de très moderne et précurseur dans l'écriture de ce personnage féminin, justement par rapport à, je pense à des séries comme Fleabag dernièrement, qui montrent un autre archétype de femme moderne.
Oui, à croire que j'avais un peu pressenti des choses et une évolution de la société, mais qui pour moi me semblait normale et logique, hein, et nécessaire. Et c'est-à-dire de célébrer effectivement les femmes, le courage des mères et le fait qu'effectivement l'époque a changé et qu'on n'est plus mais que ça soit pour les pères aussi, hein, qu'on n'est plus effectivement dans des modèles d'autorité forcément et de mais ça me renvoyait aussi à moi ce que j'étais en tant que père, hein. C'est-à-dire qu'avoir un enfant jeune à 26 ans, c'est pas pour autant que j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo, de faire le con, etc. Donc c'était juste de...
Et en plus c'est une vraie, hein, elle joue à la GameCube.
Elle joue à la GameCube, ouais. Ce qui maintenant c'est une rétro gameuse.
C'est une rétro gameuse maintenant. Et il y a aussi le personnage de la grand-mère, qui est absolument formidable parce que... dès qu'elle arrive, elle est extrêmement désagréable, elle critique énormément de choses, mais on se rend très très vite compte que finalement, c'est une sorte de mode de communication qui ne correspond pas du tout à ce qu'elle ressent pour sa fille ou pour sa petite fille, en fait. Et je trouve que vous avez une fois de plus mis le doigt sur quelque chose qu'on peut retrouver dans beaucoup beaucoup de familles, c'est qu'il y a une génération qui semblait, mais complètement... coupé d'une communication émotionnelle avec leurs enfants ou petits-enfants.
Ouais, et qui va transmettre des choses très passives-agressives, des jugements et des choses comme ça. Qui va transmettre ça, qui va forcément... Mais c'est juste de l'inquiétude, finalement. Et qui va forcément avoir plus de mal à dire les choses, les vrais mots d'amour de façon frontale. Et on va être plutôt dans effectivement le jugement ou le conseil qui est pas forcément approprié. Donc, c'était aussi pour avoir été témoin de ça, effectivement, que j'ai intégré ça et j'ai cassé un peu le cliché de la gentille grand-mère de bande dessinée en faisant ce personnage acariâtre et très inspiré effectivement de ma propre grand-mère et de sa sœur jumelle. Moi, j'en avais deux comme ça, qui étaient des sacrés personnages.
Ah, elle avait une sœur jumelle.
Une sœur jumelle. Ouais.
On était dans la logique des deux sœurs de Marge dans Les Simpsons.
C'est ça. On était dans un truc un peu comme ça et donc. Donc voilà, c'est ça qui a créé ce personnage. Et je pense qu'encore une fois, en mettant des choses très personnelles et en montrant ma famille et tout, je fais des choses qui bizarrement parlent plus de gens possible. Si j'avais fait un cliché de femme, un cliché de mère, un cliché de grand-mère, un cliché de copain, un cliché de tout ça, bah finalement, ça aurait fait quelque chose d'assez froid et aseptisé. Ce qui est intéressant pour moi, c'est effectivement les saillances de tous ces personnages.
Nous sommes dans Blockbuster avec Julien Niel pour parler de sa création Lou, mais pour le moment on écoute Solane avec L'Oiseau.
Je ne regrette pas mon nid ou mon plumage tacheté de gris qui vire maintenant au vermillon. Je ne verrai plus les saisons. Je ne regrette pas ma coquille, mon œuf, ma branche, le ciel qui brille. Je finis ma vie entre des crocs, moi qui l'ai commencé bien haut. Ma fin, je suis pas déçue. Le chat m'a eu, on s'attendait. Mon ciel, j'y ai vécu. J'y retournerai.
méfie-toi de la terre. Ces fruits à pâte, mais se payent cher. Et tu es celui des vipères. Je ne regrette pas mon envie d'avoir faim et d'aimer la vie. Je n'ai pas vu le chat venir dans les hautes herbes de mes désirs. Ma faim, je suis pas déçue. Le chat m'a eu, on s'attendait. Mon ciel, j'y ai vécu. Et c'est très bien.
Blockbuster.
On vole tous en cercle ici-bas.
Frédéric Sigrist.
On part, on y retournera.
Sur France Inter.
Je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans et j'ai un problème. Mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler. Bon, en fait, mon problème, c'est que Basile a dit à la grande Julie que je l'aimais. Il est trop chiant, Basile, il aime trop se mêler de tout, je le hais. Julie, c'est pas que je l'aime, c'est juste qu'elle a rigolé à une de mes blagues il y a pas longtemps, donc j'ai dit à Basile que je trouvais ça sympa de sa part. Bon, en fait, je l'aimais, personne ne doit savoir, même pas Corentin. Corentin, c'est mon meilleur pote, je précise. J'ai décidé que je l'aimais quand elle s'est assise à côté de moi dans le bus. Elle écoutait un truc un peu fort, donc je lui ai dit « T'écoutes fort, dis donc ». Et là, elle m'a dit « Ça te dérange ?» J'ai dit « Non, mais est-ce que je peux écouter ce que c'est ?» Et elle a dit qu'elle aimait pas trop partager ses écouteurs. Question d'hygiène. Je la comprends.
Un extrait de la série Samuel, écrite et doublée par Émilie Tronche, disponible en France sur Arte. Donc là, il y a une proximité philosophique et générationnelle.
Là, ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, j'ai rencontré Émilie il n'y a pas très longtemps. Émilie, donc, qui, elle, a grandi en lisant Lou, qui a créé Samuel. Alors, c'est effectivement, il y a des connexions qui sont super évidentes. Ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, elle va se servir d'un personnage masculin pour se raconter. Mais je pense que c'est aussi tout ça, c'est encore une fois, au-delà du genre, c'est aussi une façon de se cacher. C'est un masque, hein. Effectivement, je pense que c'est finalement le masque de Samuel et pour Émilie une façon de se raconter de façon peut-être plus intime. Et je pense que je peux dire la même chose de Lou, quoi. Mais effectivement, c'est rigolo parce que tout le monde me parle de Samuel.
C'est normal, vous l'avez un peu créé. Hein. C'était une lectrice. C'était une lectrice de loup.
Oui,
donc
faut rien enlever à sa légitimité. Et puis
ça n'enlève rien. C'est-à-dire qu'il y a un historique commun.
Mais effectivement, quand je suis tombé sur Samuel, j'ai adoré. J'ai trouvé que son écriture, elle était incroyable et c'est tellement intelligent, c'est tellement fin, drôle, tendre et bien animé en plus. Enfin voilà, maintenant une source d'inspiration à mon tour, son travail, quoi.
Et justement, j'y réfléchissais pour préparer cette émission. Je réfléchissais à la BD jeunesse de manière globale. Par exemple, on parle du phénomène manga qui est tenu majoritairement par des mangas shonen, donc réservés aux jeunes garçons, Dragon Ball, Naruto, One Piece, My Hero Academia. Et souvent on dit, par exemple, les mangas qui étaient initialement plutôt destinés aux jeunes filles, les shoujo, ont peine à trouver du succès vis-à-vis du grand public. Or, quand on regarde les chiffres de vente de la BD jeunesse, assez rapidement, en tête, on va trouver Mortel Adèle, on va trouver Les Cahiers d'Esther, on peut trouver Lou ou Lou Sonata, et je trouve que il y a quelque chose de paradoxal qui n'est jamais dit, c'est qu'en fait, la BD jeunesse qui a pour protagoniste une héroïne, cartonne en France, mais simplement on ne parle pas du phénomène héroïne de la bande dessinée jeunesse. Même les Bergères guerrières, Brume dernièrement, c'est d'autres avatars de quelque chose qui est très très fort, mais qui n'est jamais résumé comme un phénomène, alors que ça en est un.
Mais oui, en fait, ensuite, il faudrait voir les chiffres des gens qui achètent des shonen. Maintenant, je pense que c'est autant de garçons que de filles, et je pense que cette appellation, enfin, ce truc-là, même
oui,
au Japon,
ça tend à disparaître,
elle tente à disparaître. Mais je pense que malheureusement, c'est juste que les filles lisent beaucoup plus que les garçons. Je dis pas que c'est triste qu'elles lisent plus, mais que les garçons devraient lire plus, quoi. Effectivement, moi, je sais que la plupart des lecteurs de bande dessinée, en fait, maintenant, des jeunes lecteurs de bande dessinée sont des filles, et donc ça marche comme ça. C'est un peu triste, en fait, parce que effectivement j'ai l'impression que les jeunes garçons sont moins intéressés par ce média, en fait, et sont un peu plus frileux, en fait, et un peu moins curieux peut-être que les filles, qui justement elles arrivent à lire autant d'histoires de romance que d'aventures et d'action et de choses qui mêlent toutes ces choses là où les garçons, en fait, faut forcément lire un truc de bonhomme avec de la baston, quoi. Et c'est un peu triste. Heureusement, il y a des garçons sensibles qui font exception.
Oui, heureusement, heureusement. Voilà. Et j'ai pu tester le cas à la maison. Les loups sont partagés entre ma fille de 12 ans et mon garçon de 15 ans, qui trouve tout autant son compte.
Hein. Ouais, c'est ça. Mais je sais que les garçons, pendant assez longtemps, en fait, ce qu'ils lisaient, ils lisaient en cachette. Mais moi, c'était un peu pareil. Quand j'étais petit à l'école, en fait, je regardais autant Princesse Sarah et Candy que Goldorak et Cobra. Mais simplement, à la cour de récré, je parlais uniquement de Cobra et de voilà, je me vantais pas trop d'aimer ces trucs de sensibles. Finalement, c'est ces choses-là qui m'ont construite.
Et souvent, la BD jeunesse a tendance à figer dans l'ombre ces personnages. On leur interdit une capacité à grandir, à évoluer, à changer d'environnement. Il faut vraiment que dans les cases, on reconnaisse la maison dans laquelle... Or, vous cassez régulièrement vos jouets. Lou, elle voyage et elle grandit. Qu'est-ce qui vous a décidé de faire évoluer ce personnage, ce qui est toujours une prise de risque par rapport à un marché en plus?
C'est effectivement, moi je sais qu'un auteur que j'aime pas tellement, en fait, quand il a su que je faisais grandir Lou dès le tome 2, il est venu me voir en me disant: mon Dieu, tu tues la poule aux œufs d'or, ce qui m'a conforté dans l'idée qu'il fallait faire ça. Et en fait, toute l'idée, c'était de, parce que j'avais rencontré des auteurs aussi à ma première BD, des gens qui faisaient la même série immuable depuis 30 ans, ils étaient tout gris, tout tristes. Et je me suis dit, mon Dieu, faut pas que je devienne comme ça. Et finalement, j'ai découvert cette formule qui est devenue la mienne, c'est de pas avoir de formule. C'est-à-dire qu'à chaque album, j'essaie de faire table rase de tout ce que j'ai fait, de trouver une structure de narration complètement différente, effectivement, de faire grandir le personnage qui me permet aussi graphiquement, moi, d'évoluer au niveau du dessin. Et ce qui me permet effectivement de repartir d'une page réellement blanche à chaque album, et je trouve ça beaucoup plus excitant, parce que des tomes 1 de Lou, j'aurais pu en faire 70, effectivement, et je serais beaucoup plus riche, mais beaucoup plus tout gris et déprimé, en fait. Pour moi, l'excitation, effectivement, c'est le défi et le fait de, à chaque nouvel album, de me dire bon, bah, je pars de zéro, enfin, j'ai un background derrière, etc., mais j'attaque une forme et une thématique que j'ai jamais abordée.
Et d'ailleurs, même graphiquement, en tant qu'artiste, on sent vraiment une évolution à chaque tome. Quand Lou est en appartement, c'est l'impression que ça m'a donné, en tout cas. On a des petites cases, on la sent très étriquée, comme exactement le sentiment qu'on peut avoir quand on vit dans un HLM. Mm-hmm. Et ensuite, quand elle va à la campagne pour la première fois, là, il y a un éclatement des cases qui deviennent beaucoup plus vastes. Il y a l'allégorie du Covid. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vu avec les cristaux, qui amènent un tome presque onirique, quasi métaphysique dans les pages. En tant qu'artiste, même dans Lou Sonata, le festival de musique qu'elle organise, éco-responsable, quand elle danse, j'ai retrouvé des dessins, des planches de transe qui m'ont rappelé notamment l'adaptation de Luz et de Virginie Despentes sur son...
Vernon Subutex.
Oui, Vernon Subutex, où on retrouve ça aussi, une sorte d'exploration graphique de ce que la musique serait si elle était dessinée. On a éclaté le schéma de la BD Jeunesse pour aller vraiment vers une expression artistique.
Déjà, je pense que dans la bande dessinée jeunesse, il peut y avoir de l'expression artistique et que c'est pas antinomique. Et justement, pour moi, c'est en tant que grand fan de ce média, je me dois de pousser les choses le plus loin possible, d'être le plus exigeant et de tenter le plus d'expériences. Moi, je trouve que effectivement, l'art, il est intéressant à partir du moment où il choque, il bouleverse et il pose des questions. Donc, effectivement, faire ce genre d'expérience là sur le dernier. De me dire, je vais faire un album qui va être en temps réel, caméra à l'épaule, sur le Sonata 2. Ce qui est risqué parce que un de nos luxes en bande dessinée, une de nos seules armes, c'est l'ellipse. Et là, quand tu supprimes l'ellipse, effectivement, il faut raconter toute l'histoire là-dedans. Et puis, effectivement, alors que je me suis toujours régalé à dessiner des décors, l'histoire se place dans un champ qui est vide et le décor, c'est des gens. Et effectivement, de célébrer le plus possible la musique dans un média qui est dépourvu de son, effectivement, faut trouver des astuces et c'est ce qui m'excite. En fait, c'est toute cette liste de choses très compliquées, inconfortables que je dresse, tous ces défis que je me mets tout seul avant d'aborder un album qui m'excite et qui fait que je continue.
On va continuer d'échanger avec Julien Neal, l'auteur de Lou, mais pour le moment, on écoute Curtis Harding avec Where She Goes.
Thank you.
Blockbuster sur France Inter.
Waouh, je rêverais trop d'être à ta place. T'as vraiment du bol de partir aux Seychelles. Ta valise est prête? T'as ton maillot de bain, ton pareo et ta crème solaire?
Ouais, j'ai tout. Sauf mon père. Le divorce est prononcé. Du coup, il déménage pendant ses vacances et je pars seule avec ma mère.
C'est sympa quand même.
Si tu aimes te lever à 4 heures du matin et faire du sport toute la journée, alors...
Oui, je vois.
Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas traîner lamentablement en pensant à Tristan?
Non, je vais traîner joyeusement avec Tristan, figure-toi. Il reste en ville, et moi aussi. Pour résumer...
Yeah!
C'est carrément génial! Ouais,
comme tu dis. D'ailleurs, là, j'ai rendez-vous chez lui. Il paraît qu'il a une grande nouvelle à m'annoncer.
Je vais m'éclater au ski, à Val d'Enaz.
Quoi?
Un extrait du dessin animé avec Tristan qui part au ski. Alors moi, j'aimerais revenir sur ces fameux cristaux voilà, que j'ai vus comme une allégorie du Covid. Mais en fait, l'album a précédé cette fameuse pandémie. Donc, à quoi correspondent ces cristaux si mystérieux dans Lou?
Alors, dans le tome 6, effectivement, c'est un album qui est un peu spécial parce que je voulais parler de plusieurs choses. Alors déjà, il y a une inversion chronologique entre le tome 7 et le tome 6 pour perdre les lecteurs, pour que le lecteur soit perdu, comme Lou est perdu à ce moment-là de sa vie. Et avec ces cristaux, en fait, j'avais dans l'idée de parce que j'étais dans, à ce moment-là il y a eu un attentat terroriste encore ou des choses horribles qui se sont passées dans le monde. J'étais dans une angoisse terrible en me disant c'est la fin du monde. C'était un truc qui remontait en boucle dans ma tête. Et puis je suis tombé sur un livre formidable d'un monsieur qui s'appelle Jean-Noël Lafargue, qui s'appelle Les Fins du Monde, et qui t'explique qu'en fait chaque civilisation a toujours eu un mythe. Apocalyptique en fait, et que tout le monde a toujours eu l'impression d'être à l'imminence de la fin des choses, et en fait c'est une façon de se rassurer sur notre condition de mortel. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis rendu compte que des fins du monde, finalement, des attentats terroristes, des guerres, des Tchernobyl, etc., des fins du monde, j'en avais connu plein depuis que j'étais petit, et qu'effectivement le plus angoissant là-dedans, et c'est finalement la projection des adultes sur les enfants qui leur disent « Mon Dieu, t'es foutu et tu vas grandir dans un monde de merde ». Et en tant que parent et auteur de bande dessinée, en fait, j'avais justement un devoir de m'affranchir de ça et leur dire « Mais non, pas du tout, les fins du monde, vous allez en connaître et en fait, ces fins du monde, ça sera la fin d'un monde, mais pas de votre monde ». Et donc, d'où l'allégorie des cristaux, qui est une métaphore à plusieurs entrées, hein, mais effectivement c'est aussi effectivement une métaphore. Ces cristaux qui poussent en fait arrêtent le cours du temps, de l'économie, etc. Et donc voilà, c'était une façon de.
Et c'est d'autant plus intéressant que la singularité de votre personnage, de votre création, c'est qu'elle évolue, qu'elle grandit. Et tout d'un coup, elle voit apparaître des cristaux qui figent le personnage, qui figent le temps. Or, même dans l'adaptation qui a été faite en dessin animé, c'est un dessin animé qui ne permet pas à Lou de grandir et d'évoluer tel que la bande dessinée. Donc en fait, votre ennemi qui apparaît synthétisé dans les bandes dessinées, c'est le statu quo.
C'est bien vu, ouais, tout à fait.
Voilà, ça fera 72 euros, s'il vous plaît.
C'est bien vu.
Et alors... dans Lou Sonata, Lou organise donc un festival éco-responsable. Dans Lou première saison, il y a Richard qui est donc cet éleveur. On a l'impression que c'est un éleveur de moutons avec sa veste, etc.
Il est juste étudiant.
Il est juste étudiant, mais il a quand même une grosse vibe de hipster.
C'est ça.
On est quand même dans des stigmates sociopolitiques très identifiés. C'est-à-dire que le festival éco-responsable, c'est quand même un gros truc de gauchiste. Et habituellement, c'est des trucs qu'on ne retrouve pas dans l'IB des jeunesses.
Vous m'avez percé à jour, hein. J'ai bien l'impression. Non, bah, c'est drôle parce que, évidemment, aussi, ça fait partie des choses que j'essaie de faire de façon très diffuse. Alors, de moins en moins diffuse. C'est-à-dire que là, récemment, je me suis dit qu'en fait, fallait peut-être que je sois un petit peu plus frontal là-dessus. Ce qui m'a fait rire, c'est que malheureusement, pendant les dernières élections, entre les deux tours, effectivement, je me suis fendu sur Instagram d'un petit billet où j'ai mis en scène Lou et Marie-Émilie réagissant par rapport à la vague brune. Et donc j'ai fait ce post sur Instagram. Sur 67 000 abonnés, un truc comme ça, j'ai perdu une personne. Et j'ai reçu un message en disant « Mais non, vous faites de la politique et tout. » Donc il y avait une personne qui a pu croire un moment que Lou était de droite, c'est marrant.
Oui, oui, oui. Mais... Surtout qu'en plus, dès le début, son cercle d'amis est hyper inclusif et pour l'époque c'était déjà quelque chose de novateur. Une petite fille charismatique, noire, avec des dreads, on n'en voyait pas énormément.
Hein. Mm-hmm. Et puis oui, puis le fait que maintenant, enfin voilà, Lou est bisexuel, bisexuel. Etc. Bah oui, mais en fait ça, moi c'était juste parce que je peux parler que des choses que je connais, qui m'entourent, et qu'effectivement bah ma vie elle est composée de ça, et que je navigue dans ce monde là, oui. C'est évident, mais effectivement là par exemple dans l'album qui est sorti en novembre, Génération Lou, qui fait un point sur ses 20 ans et tout ça, j'ai rajouté une histoire courte qui est justement une histoire qui va plus corréler la période des cristaux à ce qu'on a connu avec le Covid, et dans lequel je vais être un peu plus frontalement politique. Et puis le fait de faire ça, je me suis rendu compte, par contre, j'ai une personne qui a quitté le navire. Mais par contre, j'ai eu des tonnes de témoignages pour qui c'était très important qu'un personnage de fiction se positionne. Et en fait, je me suis dit que c'était quelque, enfin, ne pas faire de politique, en fait, ça serait absurde. Et puis, je me souviens très bien, moi, d'une page de Franquin pour Amnesty International qui était très violente, qui faisait réagir sur la torture et sur des choses comme ça. Et je me souviens qu'enfant, d'avoir vu un personnage comme ça. Et puis, bah, pareil, quand même, il a une bonne vibe gauchiste, Gaston. Hein.
Oui, bah, les idées noires, laissent pas.
Voilà, c'est très antimilitariste, oui. Etc. Mais les idées noires, c'était pas Gaston, oui. C'était son truc à côté. Et là, le fait de voir Franquin, d'ailleurs, enfin Gaston dessiné dans le style des idées noires dans cette page pour Amnesty, ça m'avait fait beaucoup réfléchir. Il y a une page aussi qui est formidable de Zep, une page de Titeuf réfugié, qui est d'une violence, parce que c'est Titeuf et parce qu'on l'attend pas sur ce territoire-là. Mais je l'ai revu il y a pas très longtemps. J'ai réécrit à Zep en lui disant mais ça c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est vraiment super important ce que t'as fait là. Et effectivement, c'est normal, c'est la responsabilité d'un artiste, etc. Je ne peux pas être apolitique.
En tant que lecteur et concerné aussi par cet engagement, je vous remercie.
Merci
Julien Niel.
Merci Frédéric.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour évoquer la genèse de Lou. Je vous invite à lire Lou Sonata, vraiment, n'hésitez pas, graphiquement, en termes de thématique, tout, c'est un plaisir. Et j'aimerais remercier également Étienne Bertin qui réalise cette émission, une émission préparée par Lisiane Larbani, et à la technique aujourd'hui, Maxime Goudard. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 pour nous parler des émissions précédentes ou même des sujets à venir. Ou, si ça vous dit, on peut échanger sur Instagram, Fred Sigriste, je serais ravi. Et on se retrouve lundi pour une semaine spéciale Superman. Ah oui, je vais pas vous lâcher avec ça. Que nous attaquerons en parlant du film de 1978, réalisé par Richard Donner.
Alors, ma louloute, toujours bloquée sur ton cher Tristan ?
Ah, il est vraiment trop mignon. Là, il mange un sandwich au poulet.
Waouh, trop sexy.
Inter, la nuit. Fermez les yeux. Ouvrez les oreilles.
Dans un instant, le 6-9 de l'été de France Inter.
Le soleil ne va pas tarder à se lever, nous, c'est